Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est une femme extraordinaire que nous recevons ce matin. Une femme d'un prisonnier politique torturé et condamné à 30 ans de prison au Maroc. Claude Mangin est une sentinelle de la justice. Son combat à obtenir la libération de son mari, mais plus encore que le peuple Sawari, considéré par beaucoup comme le dernier peuple colonisé d'Afrique, obtienne la tenue d'un référendum d'autodétermination promis depuis plus de 20 ans. Au cœur de ce combat, le Sahara occidental, figurant sur la liste des territoires non autonomes des Nations Unies, rencontre et explications. Claude Mangin, bonjour.
Bonjour monsieur.
Voilà, vous êtes donc défenseur des droits de l'homme et épouse donc de Naam Asfari. On est très heureux de vous recevoir ce matin. Vous êtes de passage à Toulouse à l'occasion du Festival des droits de l'homme, festival de cinéma. Et c'est la CAT qui nous a alerté sur votre passage et donc nous a invité à faire une émission avec vous. On va commencer donc par faire connaissance, et en même temps qu'on fait connaissance avec vous, forcément on fait connaissance de votre mari. Votre mari, c'est donc Naam Asfari, c'est un militant des droits de l'homme qui s'est vu décerner, remettre le prix des droits de l'homme. C'était en 2018, cette année, si je ne me trompe pas, en janvier, lui a été remis donc par la CAT France le prix Angel Duterte. Voilà, nom des deux fondateurs de la CAT. La CAT est l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture.
C'est le prix pour la dignité humaine.
Comment vous nous présenteriez votre époux ?
Alors, mon mari, donc effectivement, Naam Asfari, alors déjà, c'est un prénom biblique, hein, que vous connaissez. On entend parler de Naam al Syrien dans l'Évangile, et qui signifie en langue hassania le don de Dieu. Donc, ça commençait bien, notre relation, c'est que j'ai reçu en visite le don de Dieu par Naam Asfari. Et ça m'a amené bien loin, puisque aujourd'hui, Naam est effectivement en prison pour 30 ans. Et il en a déjà fait 8 ans et demi avec tous ses compagnons condamnés pour les mêmes raisons. On y reviendra. Donc, il est Sahraoui, c'est-à-dire membre du peuple Sahraoui, dont le pays est situé entre le Maroc et la Mauritanie, et qui est l'ancien Rio de Oro.
Donc, le sud du Maroc.
Au sud du Maroc.
Au sud du Maroc.
Et donc, l'ancien Rio de Oro, une colonie espagnole. Et c'est pour ça qu'en France, on ne connaît pas ce peuple. Une des raisons pour lesquelles on ne connaît pas ce peuple, parce qu'on pense que la France avait colonisé tout le Maghreb. Et en fait, non, il y avait cette partie espagnole qui n'était pas sous l'autorité française. Donc, en plus, pour des raisons politiques, on ne parle pas de cette question, puisqu'on rend toujours invisibles les colonisés. Donc, Naam a grandi à Tantane, au sud du Maroc. Son papa était un grand caravanier, qui faisait un des derniers grands caravaniers.
Un Sahraoui aussi.
Un Sahraoui aussi, qui faisait le parcours Tombouctou-Gao, Marrakech. Et c'était un homme riche, avec une centaine de chameaux, et qui était militant pour la libération de son peuple, et qui a été arrêté, ça a été un des premiers arrêtés en février 2016, lorsque le Maroc a envahi manu militari le Sahara occidental, Rio de Oro, quand les Espagnols sont partis.
Donc il faut dire aussi donc, que votre mari ne l'a pas vu pendant un certain temps,
pendant
il l'a revu à l'âge de 21 ans, c'est ça ?
Voilà, il l'a retrouvé quand on a signé le cessez-le-feu en 1989, dans les clauses, il y avait la libération des disparus, au moins les survivants. Et donc, il faisait partie des survivants, mais il ne le savait pas, puisqu'on lui a dit, ben, va vite à Marrakech voir s'il y a ton papa. Et on lui a présenté ce monsieur, qu'il n'avait pas vu depuis l'âge de 7 ans, qui avait été arrêté devant lui. Et quand il a vu son père, il s'est effondré en larmes, et son papa lui a dit, on ne pleure pas devant les gens. Donc, c'est le premier contact avec cet homme assez extraordinaire que j'ai eu la chance de connaître, mais qui hélas est mort en 2015 sans avoir revu son fils.
Alors Claude Mangin, avant qu'on aille plus loin et qu'on parle un peu plus de votre mari et des raisons pour lesquelles la CAT se mobilise pour lui les raisons de l'attribution aussi de ce prix, même si on va prendre le temps d'expliquer ça à nos auditeurs dans la deuxième partie, il faut dire quelques mots de la cause Sahraoui. Mari. Alors, expliquez-nous peut-être en quelques phrases, avant qu'on y revienne plus longuement, cette cause que peu connaissent.
Eh bien, effectivement, si vous voulez, c'est la dernière colonie d'Afrique. Hein. C'était donc une colonie espagnole. Et en 1975, au moment où Franco devait donner la liberté au Front de Libération Nationale, qu'on appelle le Front Polisario, il est mort. Et le gouvernement espagnol a trahi la parole donnée au Polisario, puisque le roi Juan Carlos, qui a pris le pouvoir à ce moment-là, a signé un accord tripartite illégal, ce qu'on appelle les accords de Madrid, en novembre de 1975, avec le Maroc et avec la Mauritanie, pour se partager le Rio de Oro, ou Sahara occidental, le nord étant envahi par le Maroc, qui a quand même génocidé 25% de la population, et le sud envahi par la Mauritanie. Et la Mauritanie, elle, s'est retirée en 1979, battue sur le terrain, et le Maroc, donc, a envahi complètement ce territoire.
Donc, c'est une bande de terre qui est grande comme la moitié de la France. Voilà. Hein, c'est 266 000
km2. Avec 2000 km de côte poissonneuse, extrêmement riche, les plus poissonneuses avec la Mauritanie, et aussi grâce au phosphate du Sahara occidental, le Maroc est le premier producteur mondial de phosphate.
Alors, votre mari, donc, vous l'avez dit, a été condamné à une peine de prison de 30 ans. Il a été aussi victime d'actes de torture. On va y revenir. Et c'est entre autres pour ça que la CAT s'est mobilisée pour lui. Les événements terribles datent d'octobre-novembre 2010. Racontez-nous ce qui s'est passé dans cette capitale que l'on dit être celle du Sahara occidental, la Laayoune.
Donc, effectivement, ça a été le dernier acte de résistance massive du peuple sahraoui. C'est-à-dire que, en prélude du printemps arabe, Noam Chomsky a dit que c'était eux qui avaient entamé cette saison de révolte avant même les Tunisiens. 20 000 Sahraouis se sont exodés, c'est le terme qu'ils utilisent, à 10 km de leur capitale, en plein désert. Et petit à petit, ce sont effectivement 8 000 tentes, 20 000 Sahraouis qui se sont rassemblés là. Et dans le plus grand acte de résistance depuis la fin, depuis cessez-le-feu, résistance pacifique. Et immédiatement, le Maroc a envoyé son armée, sa police, qui de toute façon occupe le Sahara occidental depuis 1976, et a encerclé, à la manière d'un château qu'on encercle, pour empêcher les gens d'arriver. Et ça a duré un an.
Vous étiez là ?
Non, moi je n'y étais pas, mais deux amis de Ivry-sur-Seine, qui partaient pour le Forum social mondial de Dakar, avaient décidé d'aller voir toutes les associations alternatives de l'Espagne et du Maroc, et au Sahara occidental, et ils se sont trouvés là, au milieu de ce camp. Et c'est pour ça qu'ils ont filmé, et qu'on a des images pour lesquelles ils ont fait ce film, en disant, bah, c'est le moindre des choses qu'on peut faire pour Nama, c'est de donner un document qui permette d'expliquer ce qui s'est passé, et de ne pas qu'il tombe dans l'oubli d'une peine aussi importante.
Alors, si ça vous embête pas, avant d'aller plus loin, on va écouter justement le teasing de ce film. Ce film s'appelle donc « Dealer que j'existe ». On imagine que c'est votre mari qui parle, Naam Asfari. On écoute ce teasing, et puis après on va parler davantage de votre mari.
ثبات وصمود صحراويين عن ما هو قد حد يزعزعنا لا باستمارة ولا بشي ثاني الصمود والثبات هذول اللي قايسين دائرة ثاني
صحراوي صحراوي
Mon mari est un militant indépendantiste. Et il a été arrêté avec 22 camarades et ils sont passés au tribunal militaire il y a 2 ans. Et ils ont été condamnés à des peines allant de 25 ans à perpétuité.
Et pendant ces interrogatoires-là, donc, il a été à nouveau frappé. Il a été mis sur le ventre, puis sur le dos et frappé sur la plante des pieds. Donc c'est le supplice qu'on appelle le supplice de la falaka.
Nous, on n'est pas d'accord, pas du tout d'accord. Et donc c'est pour ça qu'on veut nous faire taire.
On a toujours les mêmes points sur les violations des droits de l'homme et ce qui se passe au Sahara occidental.
Un peuple qui résiste continue d'exister.
Voilà, donc ça c'est le teasing donc de ce film « Dealer que j'existe » qui a été donc diffusé récemment à l'occasion de ce festival des droits de l'homme. Vous êtes donc à Toulouse à cause de cela. Il paraît que vous aimez pas trop en parler et on peut comprendre pourquoi, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la manière dont votre mari, comme d'autres prisonniers, ont été traités dans ces geôles marocaines ?
Eh bien, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la pratique de la torture est généralisée au Maroc. C'est pas seulement les Sahraouis. Dernièrement, vous avez entendu parler de la révolte du Rif, pour laquelle il y a actuellement plus de 1000 prisonniers politiques au Maroc, dont ce que l'on sait peu. Et la torture est systématique. Donc, effectivement, ils ont été torturés dès leur arrestation. Enama a été arrêté la veille des faits qui lui sont reprochés. Et il a passé 8 jours dans les sous-sols de des prisons de l'Ayoun, dans lesquels il a été torturé par les responsables de la DST. Et c'est pour ça qu'on a pu porter plainte auprès du comité contre la torture et que le Maroc a été condamné par ce comité contre la torture, ce qu'il ne nous pardonne pas. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai été interdite d'entrer sur le territoire marocain pendant 30 mois et que j'ai été expulsée 4 fois. C'est-à-dire que le Maroc se venge de ces militants qui ont montré à la face du monde, grâce au rassemblement de Gdemizik pacifique, que le peuple sahraoui existait bel et bien, alors qu'ils pensaient avoir convaincu et le peuple marocain et la communauté internationale qu'il n'y avait pas de sahraoui, mais que c'était des Marocains Sahraoui, comme il y a des Marocains rifains. Et là, ça lui a éclaté à la figure. Et pendant 1 mois, ça a été considéré comme un défi terrible. Et depuis, c'est la vengeance successive qui s'exerce contre le peuple marocain, contre mon mari, considéré comme le responsable, l'instigateur du rassemblement de Gdemizik, et contre moi, qui suis son épouse, et qui, par exemple, n'a pas pu participer au deuxième procès en appel. Donc c'était aussi pour casser le moral de mon mari et de ses compagnons.
Alors, dans un article donc, du journal La Vie, très beau portrait de vous qui date de 2013, vous dites la chose suivante. Lorsque vous avez vu la première fois votre mari après son arrestation, en décembre 2010, c'est le choc, il ne m'a rien dit de personnel, ce n'était plus lui, les 3 petits points que l'on lit sont de vous. Claude Mangin, comment vous expliquez, c'est d'ailleurs dit dans ce même article, que en France, il y a une espèce de méconnaissance de certaines pratiques au Maroc. Il est rapporté dans cet article comme ça, un conseiller de politique de l'ambassade américaine du Maroc qui dit la chose suivante, il n'y a plus que les Français qui pensent encore que le Maroc n'est qu'un pays touristique.
Ben, c'est toujours vrai, puisque qui entend parler du RIF aujourd'hui? Qui sait que les journalistes sont condamnés à 3 ans, 4 ans uniquement parce qu'ils font leur travail? Et qui sait qu'il y a 1000 prisonniers politiques au Maroc dont les leaders ont été condamnés à 20 ans, alors que c'était aussi un rassemblement pacifique? Il n'y a pas eu un mort dans les forces de l'ordre marocaines pour le rassemblement du RIF. Donc effectivement, on peut utiliser le mot omerta, tabou, trou noir de l'historiographie française. J'imagine que la majorité des auditeurs de votre radio n'auront jamais entendu parler du Sahara occidental. Eh bien, effectivement, nous avons le Maroc a un statut spécial en France, c'est-à-dire qu'on est toujours, en fait, sous un régime du protectorat qui avait été signé en 1912, où il est mis en toutes lettres que la France protège le sultan et sa famille. Protège le peuple, le Marocain, le sultan et sa famille. On en est toujours là. Et d'ailleurs, la rare fois où vous entendez parler du roi, c'est toujours présenté comme le nouveau roi, le jeune roi, le roi des pauvres. La propagande marocaine est absolument extraordinaire. Il y a effectivement 12 millions de touristes chaque année au Maroc. Et il se trouve quand même que c'est une monarchie complètement corrompue et qui corrompt la France et les Français et tous ceux qui veulent bien se les corrompre. Et je vais être assez dur, mais les journalistes, les gens du showbiz, les hommes politiques, etc., etc., et que de quelque parti que ce soit, et que quel que soit le gouvernement qui était au pouvoir depuis 75, gouvernement socialiste ou pas, c'est toujours la raison d'État qui prime et les intérêts économiques des grandes entreprises françaises.
Claude Mangin, alors j'ai lu, mais vous allez peut-être m'aider à être au plus juste de la réalité, que vous avez été expulsé 4 fois donc du Maroc. Que en avril dernier, donc, il vous a été demandé de ne plus revenir sur le sol marocain. Vous avez entamé après ça une grève de la faim. J'ai cru comprendre que vous aviez revu votre mari il y a peu. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être nous donner des nouvelles avant qu'on fasse une première pause et puis derrière qu'on parle de la cause que défend votre mari, celle du Sahara occidental?
Eh bien, effectivement, nous avons eu la grande joie de nous revoir la semaine dernière. C'était lundi 14 et mardi 15. Ça veut dire que la la lutte a payé, mais il a fallu beaucoup de temps parce que j'allais au Maroc tous les 3 mois à chaque vacances scolaires puisque je suis prof depuis 2011 et en 2016 suite à la plainte on m'a interdit de territoire et donc chaque fois j'ai prévenu le ministère des Affaires étrangères, j'ai prévenu l'ambassade marocaine que j'allais y retourner et jamais personne ne m'a autorisé à y aller. J'ai été expulsée avec des nuits dans l'aéroport de façon assez horrible, disant que le Maroc est souverain et qu'il accueille qui il veut sur son territoire. Et la quatrième fois, j'ai prévenu tout le monde que je ne me laisserais pas faire, que si on me laissait pas rentrer une quatrième fois, cette fois j'entamerais une action visible et soutenue par tous les gens qui m'aident, aussi bien la CAT, le CCFD, que les associations de soutien au peuple sahraoui française. Et j'ai tenu parole. Évidemment, j'avais pas dit quel moyen d'action j'utiliserais.
Jeune d'un mois, vous avez fait.
C'était voilà. Et pendant un mois, le 18 avril, quand j'ai été expulsée le 17 avril, le 18 avril, j'annonçais que j'entamais une grève de la faim illimitée jusqu'à ce que je sois autorisée à retourner sur le territoire.
Et donc, votre mari, comment va-t-il?
C'est ce que j'ai fait.
Pour finir.
Et alors, finalement, mon mari, donc 9 mois après, les négociations du ministère des Affaires étrangères avec le ministère des Affaires étrangères marocain a obtenu mon retour. Et donc, nous nous sommes vus avec beaucoup de joie, évidemment, dans un parloir pendant 1h30 le lundi, 1h30 le mardi, dans des conditions très correctes.
Claude Mangin, on va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver pour nous que vous nous parliez donc de la cause que défend votre époux et que vous défendez aussi avec lui, donc celle du Sahara occidental, même si vous nous avez donné quelques éléments, probablement que l'immense majorité d'entre nous n'en ont jamais entendu parler, donc il est de bon ton de faire un coup de zoom sur cette cause politique.
الأرض تبكي دموعا ودماء واسع الأرض تبكي دموعا ودماء واسع في شوق تسجد خشوع ليوم اللقاء في شوق تسجد خشوع
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Claude Mangin, sentinelle de la justice. C'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission de rencontre avec une femme et une sacrée femme. Claude Mangin est donc défenseur des droits humains, comme elle se présente elle-même, et épouse de Naam Asfari. Naam Asfari, je le redis à ceux qui nous prendraient en cours de route, s'est vu décerner le prix des droits de l'homme à ce militant sahraoui par la fondation ACAT et l'ONG ACAT France, donc l'ACAT étant l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, prix Angel Duterte, des deux fondatrices, des deux fondateurs de l'ACAT, remis donc le 27 janvier de cette année. 27 janvier 2018, pardon. Claude Mangin, votre mari, donc, je le redis, hein, pour ceux qui nous prendront en cours de route, est donc un prisonnier politique au Maroc. Il a été condamné à 30 ans de prison parce qu'il défend la cause sahraoui. Alors j'aimerais, dans cette deuxième partie d'émission, vous nous expliquer davantage, et merci de nous faire la version pour les nuls, ce qu'est ce Sahara occidental. Vous l'avez dit dans la première partie, les choses basculent en fait autour de 1975-1976, mais avant de ça, avant de la fin de cette période coloniale espagnole, est-ce que vous pouvez nous dire qui est ce peuple en fait, ce peuple sahraoui?
Donc c'est un peuple qui vient du Yémen, hein, qui est arrivé au Sahara au XIIe siècle. Hein, c'est la tribu des Beni Hassan. Donc ils parlent le Hassania, qui est aussi la langue des Mauritaniens, hein, des Maures. Donc c'est pas du tout une tribu berbère, hein, c'est une tribu arabe. En 1885, il y a eu la conférence de Berlin, où l'Europe s'est partagé le monde et l'Espagne a entre autres reçu comme territoire ce qu'on appelle le Rio de Oro, et vous savez que c'est un très beau nom parce que c'était un territoire riche qui avait de l'or dans les rivières, dans les deux rivières, dans les deux ouèdes qui existent au Sahara occidental, c'est-à-dire le Rio de Oro et la Saïgat El Amra, qui donne aussi le nom au Front Polisario, qui est le Front de Libération Nationale Sahraoui, qui a été fondé en 1973. Mais avant, il y avait eu déjà des révoltes contre l'Espagne et qui avaient déjà abouti à la disparition d'un des fondateurs de la lutte, monsieur Bassiri, dont on n'a plus jamais eu de nouvelles. Donc, voilà.
Donc un peuple qui a une langue, qui a une histoire, donc vous venez de le dire. Mais aujourd'hui, c'est combien de personnes, les Sahraouis?
Disons que c'est très difficile de donner des chiffres, hein, puis vous savez que les chiffres, c'est politique. Donc on a l'habitude de dire environ 1 million de personnes, dont 180 000 qui vivent dans les camps de réfugiés depuis 1976 en Algérie et peut-être 200 000 en territoire occupé, mais ils forment plus que 20% de la population puisque c'est une énorme colonie de peuplement marocaine, et puis le reste dans la diaspora en Espagne puisque c'est l'ancien pays colonisateur, mais aussi beaucoup en France et en Europe.
Alors, si vous deviez revenir un petit peu de manière plus précise donc sur ces événements autour de 1975-1976, le roi Hassan II organise donc à compter du 6 novembre 1975 ce qu'on appelle la marche verte. Mmh. Expliquez-nous ce qu'est cette marche et ce coup de force du roi du Maroc Hassan II.
Voilà, alors effectivement Hassan II, qui était un grand stratège, a réussi le tour de force de faire croire, et bien relayé par les médias français, que c'était une marche pacifique, avec 300 000 hommes qui ont été emmenés par camion avec le drapeau. Et d'ailleurs, cette image est sur tous les billets de banque marocains, qui était la marche de la récupération des provinces du Sud. Et on est toujours dans cette image, c'est-à-dire que le Maroc considère qu'il est chez lui au Sud, et même le parti de l'Istiklal, le parti de l'indépendance, lui voulait le Grand Maroc jusqu'au fleuve Sénégal quand même. Et donc ils ont mis beaucoup de temps à reconnaître l'indépendance de la Mauritanie parce qu'ils considéraient aussi qu'ils étaient chez eux. Hein. Donc vous connaissez la Grande Syrie, la Grande Russie, la Grande Israël, et ben on a aussi le Grand Maroc. Et il y en a encore qui rêve à ça. Et donc tout ce territoire au sud du Maroc, il n'a jamais été marocain, il n'y a jamais eu d'allégeance des tribus sahraouis au sultan du Maroc, a été décrété par la Cour internationale de justice en 75 comme un territoire autonome, et on en est toujours là, et que c'est donc, selon le droit international, la dernière colonie d'Afrique. Et s'il n'y avait pas eu la mort de Franco, comme je l'ai déjà dit, eh bien ce territoire du Rio de Oro, dans ses frontières coloniales, serait devenu indépendant, mais c'était sans compter le Maroc qui voulait absolument conquérir ce territoire et qui a été soutenu pour ce faire par les avions de Monsieur Giscard d'Estaing, qui ont bombardé au napalm et au phosphore, c'est-à-dire des armes interdites, et qui a fait que le peuple, un peuple civil, pacifique, a dû se sauver de nuit avec les enfants. On a des images terribles parce que toute cette guerre est complètement documentée, et se sont réfugiés du seul côté où ils pouvaient aller, c'est-à-dire en Algérie, puisque de l'autre côté, c'était l'océan Atlantique.
Alors, vous parlez de la position de l'Organisation des Nations Unies. Mmh. Je l'ai dit en introduction, le Sahara occidental figure sur la liste des territoires non autonomes. L'ONU considère le Sahara occidental comme un territoire sans administration. Est-ce que vous pouvez nous préciser exactement, en fait, quelle est la position de l'Organisation des Nations Unies sur cette situation ?
En fait, selon les Nations Unies, la puissance administrante est bien l'Espagne, qui n'a pas fait aboutir le processus
toujours
de décolonisation. Mais on a utilisé pendant longtemps le terme d'administration de facto, administratif de facto, par le Maroc, qui est comme toujours une puissance coloniale, et c'est toujours leur terme qu'on reprend. Et depuis quelques années, depuis le procès de 2016, le procès en appel, grâce à la CAT, on a utilisé les mots propres.
Donc le procès de votre mari
en appel.
Et des autres. Hein.
Voilà.
En appel, pardon.
2016-2017, qui a duré 9 mois, puisqu'ils avaient été condamnés par une première instance à un tribunal militaire en 2013. Et donc, nos avocats français, à qui on a demandé d'aller là-bas parce que c'était quelque chose que les avocats sahraouis ou marocains ne pouvaient pas dire, sinon ils se font mettre en prison, c'est-à-dire qu'on a défendu le droit international humanitaire, celui qui est régi par les conventions de Genève, c'est-à-dire le droit de la guerre. Hein, parce que c'est bien des crimes de guerre qui sont commis contre le peuple sahraoui. Et le Maroc est un pays criminel de guerre, et nos sahraouis, qui sont des civils, sont quand même des prisonniers de guerre. Et donc le Maroc est une puissance coloniale occupante, et le territoire Sahara occidental est un territoire occupé. Et ça, c'est des termes qu'on utilise pour Israël-Palestine, mais qu'on n'utilisait pas du tout jusqu'à l'année dernière pour le Maroc.
Donc, mais alors, est-ce que ce sont vos termes, ou est-ce que c'est les termes de l'Organisation des Nations Unies ?
C'est ça, c'est selon les termes des conventions de Genève, qui sont régis par les conventions de Genève, et pour lequel le Polisario et le Maroc sont signataires. Et normalement, tous les pays qui ont signé les conventions de Genève devraient aider le Maroc à l'appliquer, y compris la France. Or, c'est pas du tout le cas, puisque, par exemple, les détenus auraient dû être jugés en territoire occupé, selon le droit coutumier sahraoui, et auraient dû être incarcérés au Sahara occidental, à Laayoune, près de leur famille. Or, ils ont été jugés deux fois en territoire de la puissance occupante et incarcérés dans la puissance occupante.
Alors, cette précision, en fait, si on revient donc aux événements de 1975-1976, parce que vous avez cité des noms, mais c'est pour vraiment par pédagogie. Le 27 février 1976 est proclamé par le Front Polisario, dont vous avez déjà parlé, donc la République arabe sahraoui démocratique, RASD. S'ensuit donc une guerre entre le Maroc donc et le
Front Polisario.
Et le Front Polisario.
L'armée Libération Nationale.
Voilà. Et pendant cette guerre est construit donc un mur de défense, ça aussi on le sait peu, et vous m'avez dit en préparant l'émission que c'est le plus grand mur de séparation qui existe au monde. Parlez-nous de ce mur.
Effectivement, c'est un des 9 murs qui existent dans le monde, dont personne n'a jamais entendu parler. Et l'armée de libération nationale et le Front Polisario étaient vainqueurs sur le terrain, puisque c'était leur territoire, ils connaissaient bien le terrain, alors que l'armée marocaine, beaucoup recrutée parmi les berbères, qui sont des guerriers dans le Haut Atlas, ne connaissait pas du tout le Maroc. Et finalement, pour pouvoir, ils ont été, grâce à la construction de ce mur qui a commencé en 2003, en 83, et qui s'est terminé en 87-8, le Sahara occidental riche a été séparé du Sahara occidental pauvre, et donc l'armée de libération nationale ne pouvait plus faire de raid. Et donc c'est comme ça qu'ils ont fini par signer un cessez-le-feu avec le Maroc sous l'égide des Nations Unies.
Mais à quoi ressemble ce mur? Il paraît que c'est un mur de sable, m'a-t-on
voilà,
dit.
Voilà, alors c'est un mur qui est très large, avec des bermes de sable énormes, et avec tous les 10 kilomètres un poste militaire. Et il est infranchissable parce que il est entouré de barbelés et de 5, 6, 8 millions de mines antipersonnelles qui explosent encore régulièrement, en particulier dans ce qu'on appelle les territoires libérés, qui est une bande qui appartient, qui a été libérée par à l'est du mur, qui a été libérée par le Front Polisario, et où nomadisent encore des Sahraouis qui sont blessés chaque année. Il y a des morts et des blessés.
Alors, depuis, semble-t-il, ce cessez-le-feu en 1991, doit être organisé un référendum d'autodétermination.
Voilà, ça faisait partie des termes du cessez-le-feu, et aussi la libération des disparus.
C'est une promesse, donc normalement, l'ONU est garant en fait de l'organisation de ce référendum. J'ai cru comprendre que les choses, ces derniers temps, bougeaient un petit peu, entre autres à l'initiative des États-Unis, qui mettraient un peu la pression sur le Maroc pour que ce casus belli politique avance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Alors exactement, moi j'ai l'habitude d'expliquer ces jours-ci qu'on est un petit peu dans un alignement de planètes qui espérons vont aboutir, puisque l'administration Trump, dont on pense très peu de bien, a posé des actes depuis un an. C'est-à-dire que Monsieur Trump est un des rares chefs d'État occidental qui déteste le roi du Maroc parce qu'il a financé la campagne électorale de Madame Clinton. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous savez qu'il ne veut plus financer l'ONU. Donc, il trouve que cette MINURSO, qui depuis 27 ans, donc la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental, n'a rien fait.
Coûte trop cher.
Et coûte trop cher, puisque depuis 27 ans, elle n'a pas fait son travail, c'est-à-dire d'organiser ce référendum à cause du fait que le roi du Maroc est complètement phagocyté cette force des Nations Unies qui finalement ne fait que surveiller le cessez-le-feu, mais absolument pas le reste, n'a pas d'autre mandat. Et, enfin, si son autre mandat, c'est d'organiser le référendum, il ne l'a pas fait, à cause du fait que le Maroc n'en veut pas. Hein, en 2003, quand l'envoyé spécial du responsable des Nations Unies, Monsieur Baker, a failli arriver à l'organisation du référendum d'autodétermination en ayant ajouté que une troisième partie, c'est-à-dire c'était intégration au Maroc, indépendance, et rajoutait et qu'avait accepté le Polisario qu'un vote pour une autonomie pendant 5 ans auquel pouvaient participer tous les Marocains installés depuis 95, donc c'était une belle concession que faisait le Polisario, eh bien ça a été refusé par le Maroc parce que je pense qu'il n'était pas sûr que les Marocains même voteraient pour l'intégration du Sahara occidental.
Mais alors, juste, ne nous perdez pas trop, parce que là, vous étiez sur l'administration Trump.
Ce que je veux dire,
il y a eu une réunion en décembre dernier.
Oui, mais parce que l'administration Trump a renommé au département d'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères américain, John Bolton, qui était celui qui avait mis en œuvre le plan Baker de 2003. Alors, donc, ce même John Bolton,
qui est en train de se passer, du coup
veut faire aboutir ce plan Baker. Donc, avec le nouveau représentant spécial nommé par Monsieur Guterres, Horst Köhler, pour le Sahara occidental, qui est un ancien président allemand qui a la confiance de toutes les parties, il a réussi à aller au Sahara occidental occupé, ce qui avait été refusé à son prédécesseur par le Maroc, et il a réussi à organiser effectivement en préliminaire une table ronde les 5 et 6 décembre à Genève, où l'enjeu le plus important, c'était pas de recommencer les négociations, mais que le Maroc accepte de s'asseoir à la même table que le Polisario, c'est-à-dire remettre les deux protagonistes qui ont signé le cessez-le-feu à la même table.
Et ça s'est passé.
Et ça s'est passé. Et pour nous, c'était déjà, et pour toutes les chancelleries, c'était déjà un acquis formidable, avec comme observateurs les deux pays, l'Algérie et la Mauritanie.
Alors, la position de la France au milieu de ça, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez soutenu donc, par le président Emmanuel Macron. Alors, j'ai peut-être lu trop rapidement. Quel rôle joue la France aujourd'hui dans cette situation ?
Pendant ma grève de la faim, M. Macron nous a effectivement écrit pour nous dire qu'il avait chargé M. Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, d'obtenir, pour des raisons humanitaires, mon retour en Maroc pour pouvoir rencontrer mon mari. Voilà, c'est le soutien du président, qui a quand même mis 9 mois pour l'obtenir, de ma rentrée au Maroc, se limite à ça. Parce que le gouvernement français, depuis toujours, comme membre du Conseil de sécurité, et c'est pour ça qu'en tant que citoyen français, on attend, c'est si important qu'on sache ce qui se passe, parce que c'est un gouvernement élu qui doit aussi entendre ses citoyens, eh bien, en tant que membre un des cinq membres du Conseil de sécurité, a toujours soutenu ce que le Maroc appelle le plan d'autonomie qu'il a annoncé en 2007. C'est-à-dire qu'il ne veut absolument pas de ce référendum d'autodétermination, mais lui propose un plan d'autonomie, c'est-à-dire que le Sahara occidental soit autonome à l'intérieur du Grand Maroc. Plan d'autonomie qu'on n'a jamais vu écrit, mais que dont la France écrit toujours qu'il est une proposition sage et crédible, qui est une bonne base de négociation, alors que c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans le droit international, puisque le droit international, c'est la décolonisation d'un État à l'intérieur des frontières coloniales, comme tous les autres pays d'Afrique.
Claude Mangin, évidemment, il faudrait probablement d'autres émissions pour tout comprendre. On peut renvoyer au film, hein, Dis-leur que j'existe. Je le redirai à la fin de l'émission, mais ce film, il peut, sur la demande de n'importe qui, être diffusé dans une paroisse, dans un cinéma. Il faut se mettre en lien avec la CAT. Il y a un site internet pour ce film, Dis-leur que j'existe, qu'on trouve assez facilement. Quel espoir vous avez pour le Sahara occidental, vous et votre mari, Naam Asfari? Est-ce que il pourrait y avoir ce référendum d'autodétermination prochainement?
Alors, il n'y a jamais eu de lutte pour la liberté, pour l'indépendance et pour la justice qui n'ait pas abouti. Le problème, c'est la durée. Donc, si on remonte à 1885, vous voyez que ce peuple est occupé depuis longtemps. Il a fallu 143 ans aux Algériens pour se libérer. Là, ça fait 45 ans qu'ils sont en exil en Algérie. Et ces derniers temps, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de signes qui montrent que ça bouge, puisqu'il y a aussi toute la question dont on aurait pu parler, c'est-à-dire les accords Europe-Maroc qui sont en train d'être renégociés ces jours-ci, et pour lesquels le Polisario a obtenu que la Cour européenne de justice disent que ces accords sont valides à condition qu'ils n'intègrent pas le Sahara occidental. Donc c'est une belle victoire, mais qui n'est pas aboutie puisque le Parlement vient de voter contre. Donc la lutte continue de ce côté-là. Il est vrai que le fait qu'il y ait des négociations qui vont commencer en mars font que le dossier des prisonniers politiques est sur la table, que la France est complètement mouillée, surtout avec ma présence, et que ne peuvent pas dire que ça n'existe pas et que ces prisonniers ne soient pas des prisonniers politiques, et que on espère bien que les négociateurs français qui soutiennent le Maroc vont enfin ouvrir une brèche dans leur soutien, d'autant plus que le Maroc n'est pas du tout dans une situation sociale positive, et que il est temps d'aider le Maroc à sortir de ce guépier qui lui coûte très cher. On dit 3% 3 points du PIB, et que c'est quand même le plus pauvre pays du Maghreb, avec 80% d'analphabètes et des révoltes sporadiques régulières comme celle du RIF l'année dernière.
Merci beaucoup Claude Mangin, on va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver, donc restez avec nous chers auditeurs, comme il est de tradition dans ces rencontres de personnalités, on leur demande quel est le sens de la vie, quelle vision ils ont un peu de Dieu ou de l'Église, un dernier volet un peu plus existentiel. Vous restez avec nous après cette courte pause et on vous retrouve tout de suite. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Claude Mangin, sentinelle de la justice, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Claude Mangin, donc défenseur des droits humains, comme elle se présente, et épouse de Naam Asfari. Je rappelle pour les auditeurs qui nous prendront en cours de route, Naam Asfari qui s'est vu remettre le prix des droits de l'homme, le prix Angel Duterte, prix remis par l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'était en janvier 2018. Naam Asfari, donc militant sawari, emprisonné donc au Maroc pour 30 ans. Et nous sommes avec son épouse ce matin, qui est de passage à Toulouse, ou qui était de passage à Toulouse il y a quelque temps à l'occasion du Festival des droits de l'homme, festival de cinéma, durant lequel était diffusé un film, comme ça vous saurez tout, chers auditeurs, film qui s'intitule « Dis-leur que j'existe ». Dans cette dernière partie d'émission, comme à l'accoutumée, donc je vais vous poser quelques questions. On imagine que vous devez avoir des réponses à cette question, parce que vu la profondeur de votre combat, on ne se lève pas le matin sans raison, contrairement peut-être à bien des gens. J'imagine que vous êtes déjà posé cette question. Comment vous répondriez à cette question? Qu'est-ce qui fait que vous levez le matin, Claude Mangin?
Eh bien, c'est vrai que j'ai la chance d'être portée par ce besoin que justice soit faite et que la vérité soit dite. Et c'est vrai que tous mes combats de toute ma vie ont été dans ce sens-là. Aussi bien quand j'étais professeur en Haïti, où je suis tombée pendant la chute de Duvalier, où les guides que j'avais créés là-bas ont nettoyé la ville et où on a fait des choses extraordinaires, que comme salarié du CCFD, que comme guide de France, où on s'est toujours battu pour que les femmes en Afrique et ailleurs puissent être des citoyennes responsables, et enfin cette cause sahraoui qui est vraiment une cause perdue à gagner assez extraordinaire, et ma foi en Jésus-Christ m'a toujours portée, et j'ai la grande chance effectivement de croire en Jésus-Christ et de faire partie de cette Église catholique qui permet d'avoir une communauté qui me soutient aussi dans tous mes combats.
Quel sens a la vie pour vous? Comment vous répondriez à cette question?
Eh bien, je pense que nous sommes sur cette terre pour permettre que l'ensemble de la communauté humaine vive mieux, et que chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de bien, eh bien ça permet à tout le monde de vivre bien, et chaque fois que quelque chose est injuste, eh bien ça fait aussi régresser l'humanité tout entière. Et moi, c'est mon combat, c'est celui-là, c'est ce combat pour la justice. Et Jésus-Christ lui-même a été condamné à mort de manière injuste, et toujours quand on lit le texte de la Passion le Vendredi Saint ou pendant la Semaine Sainte, on le lit plusieurs fois, j'ai toujours considéré que Jésus était celui qui est un peu la tête de file de tous ces hommes qui subissent la torture tout le temps, tous les jours, pendant que je vous parle, et qui nous montre le chemin de la rédemption.
Claude Mangin, est-ce que vous êtes quel regard vous portez peut-être sur la société française actuelle? Alors je vais préciser ma question parce qu'elle est bien vague, mais bien des chrétiens se désolent que il y ait si peu de gens aujourd'hui qui croient en Dieu, et ont l'impression de vivre dans un pays qui est traversé par l'athéisme ou l'agnosticisme, manque de, on va dire, de sève, de vigueur, de sens. Est-ce que c'est aussi votre sentiment?
Écoutez, moi, la cause sahraoui m'a fait rencontrer tout ce qui se fait de bien dans le monde laïque, hein, puisque c'est grâce à moi que, en fait, les guides de France se sont intéressés à la cause sahraoui, et donc tous ceux qui soutenaient le peuple sahraoui en France, eh bien, ce sont les communistes, ce sont les laïcs, ce sont plein de gens, des professeurs, des militants pour l'indépendance de l'Algérie, puis du Sahara occidental, et tous ces gens-là ne sont pas chrétiens. Et grâce à moi, et bien finalement, tous ces mondes-là se sont croisés, hein, la CAT, le CCFD, et
sur la
côte sahraouie. Et tous mes amis sont très reconnaissants à tous ces chrétiens dont ils reconnaissent l'extraordinaire mobilisation, aussi bien humaine que financière, puisque le CCFD nous soutient dans nos actions dans les campements depuis des années, et même dans les territoires occupés. Et c'est les seuls à le faire. Et donc, et pendant ma grève de la faim, j'ai été accueillie à la mairie communiste d'Ivry-sur-Seine, cette mairie où vient d'être déclarée bienheureuse Madeleine Delbrel. Je pense que quelque part, elle m'aide aussi, puisque j'habite dans sa rue. Dans cette mairie communiste, se sont croisés tous les publics qui sont venus me soutenir. Et c'est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, même Monseigneur Sentier, mon évêque, a signé une lettre commune avec Philippe Buissou, le maire communiste, avec qui s'entend très bien, pour demander à M. Macron de répondre à ma demande.
Alors, ça serait ma dernière question. Qu'est-ce que vous diriez dans ces cas-là à ceux qui nous écoutent, qui ont parfois une mauvaise image des chrétiens ou de l'Église, puisqu'on a compris donc que pour vous, la vie avait un sens évident, profond, que vous aviez une grande foi chrétienne, que voilà, Jésus est ce premier des persécutés, et on imagine, puisque vous êtes chrétienne, il est davantage. Mais souvent, je finis l'émission en demandant à mes invités quel regard ils ont sur l'Église. Alors vous, l'Église, vous avez un beau regard, puis vous dites qu'elle vous a soutenu, mais qu'est-ce que vous diriez à ceux qui sont extérieurs dans ces cas-là à l'Église ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois qu'il y a comme un décalage entre ce qu'est l'Église et l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui en France ?
Bah, évidemment, mais en même temps, la France, on a la chance d'avoir cette séparation de l'Église et de l'État, et donc on ne mélange pas tout, comme ça peut être ailleurs, et donc c'est plutôt... Et aujourd'hui, avec le pape François, c'est incroyable la façon dont tous les gens que je rencontre disent du bien de ce pape, ce qui n'est pas toujours vrai même dans notre propre église. Il y a des tas de gens qui trouvent que le pape François va trop loin. Or, à l'extérieur, c'est devenu une parole vivante et audible, et il n'y en a pas beaucoup ces jours-ci, hein, les hommes politiques étant discrédités à peu près partout.
Vous avez des exemples de rencontres de personnes athées ou de certaines obédiences politiques qui vous ont dit leur admiration pour le pape François sujets précis?
Oui, moi, à Ivry, où justement on a beaucoup de relations chrétiens communistes ou chrétiens athées, c'est clair que pour eux, et d'ailleurs on est en train d'organiser une rencontre sur le texte Laudato Si, et tout le monde a dit oui. Les Verts, le Parti des Verts, la MAP, c'est-à-dire le commerce des légumes équitables dont on fait partie, où c'est que des gens qu'on pourra appeler des bobos pour faire vite, donc très loin de l'Église et très loin même des communistes, qui sont pas du tout là-dedans, ils ont accepté de venir travailler avec nous sur ce texte qui est dans le sous-titre est la Maison commune.
Eh ben, merci beaucoup, Claude Mangin, d'être venu au micro de Vivante Église, de Radio Présence, donc en ce vendredi matin.
Merci beaucoup. Vous pouvez aller sur le site écrire pour les libérer.com, où vous pourrez aussi nous aider en devenant parrain des prisonniers politiques, c'est-à-dire leur écrire régulièrement, accueillir des enfants sahraouis pendant l'été, puisqu'on en reçoit 150 dans diverses communautés.
Redonnez l'adresse du site internet.
Écrire pour les libérer.com.
Écrire pour les libérer.com.
Et puis il y a Facebook, les amis du peuple sahraoui.
Et puis donc, les auditeurs qui voudraient peuvent
aller sur la CAT.
Voilà, aller sur la CAT, se mettre en contact avec la CAT pour voir le film Dealer que j'existe ou pour organiser des diffusions. Merci beaucoup. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Ou par mail à contact@radioprésence.com.